Vous êtes bien sur GCCR, la radio du collège Jean-Corentin Carré, et vous écoutez l'émission Carnet de voyage, la découverte du monde par des collégiens fahouettais.
Je chante les louanges des armoricains, des latinistes, vaillants et parfois désespérés, ayant réussi à survivre aux mille et une épreuves que le tout-puissant Jupiter leur a imposées. Ils ont affronté la fatigue, l'ennui et les nids de poules pendant 26 heures, supportant l'inconfort et les ronflements sous la protection du dieu des voyageurs, Mercure, pour arriver à une terre bénie des dieux où leurs connaissances se sont accrues. Ils ont subi la faim, l'épuisement et bien d'autres tourments de la part de la terrible Junon, jalouse d'un fils de Jupiter accompagnant les latinistes. Malgré tout, ils ont continué à persévérer, un pas après l'autre, pour que leurs esprits connaissent enfin les vérités parmi les légendes. Ils ont foulé de leurs pieds mortels les temples sacrés, preuve que leur cœur était pur. Ils ont marché sur les ruines de la ville ensevelie de Pompéi, preuve que leurs yeux ne sont pas embrumés. Et pour finir, ils ont souhaité revenir à Rome la Magnifique, par la fontaine de Trévi. Malgré la courte durée de leur visite, nous les entendons eux-mêmes chanter les exploits de notre patrie et souhaitons que leurs vœux soient alors exaucés.
Merci Carmen pour cette réécriture de l'Énéide de Virgile, version armoricaine. Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, première émission dans la série Carnet de voyage, la découverte du monde par des collégiens fahouettais. Dans ce premier épisode, nous sommes partis en Italie au mois de décembre à la recherche de vestiges du monde romain. Voyage dont nous vous rapportons les souvenirs à travers différentes chroniques. Nous commencerons donc par la présentation du Colisée et voyagerons ensuite vers le Forum d'Auguste. Nous continuerons notre aventure avec cette fois une enquête policière sur la Domus Aurea, puis nous nous orienterons vers l'histoire mythologique et touristique de la fontaine de Trévi. Enfin, nous finirons par un micro-trottoir sur l'ambiance du voyage.
Nous commençons donc par le Colisée, dont la capacité d'accueil est bien supérieure à nos audiences.
Aujourd'hui, Kylen et moi allons vous présenter ce fameux monument historique de Rome, créé en 80 après Jésus-Christ.
Vous l'avez bel et bien compris, il s'agit du Colisée.
Il y avait un sous-sol où se trouvaient les canalisations d'eau pour les batailles navales, les gladiateurs, les esclaves, ainsi que les animaux comme les ours, les lions, etc., qui attendaient de monter dans l'arène. Mais Kylen, le savais-tu que le mot arène vient du latin arena qui signifie sable ?
Non, je ne le savais pas. Dans la cavea, au premier étage au-dessus de l'arène, se trouvaient les gradins des nobles privilégiés afin qu'ils puissent mieux voir et ne pas se mélanger avec la population ayant un statut social inférieur. Mais Tony, savais-tu qu'on accédait à la cavea par des vomitoriums qui évitaient à la population de se mélanger entre classes sociales ?
Ah, d'accord, c'est comme une pyramide sociale inversée.
Exactement.
D'accord. Mais Kinan, tu sais à quoi ressemblait une journée type au Colisée ?
Oui, je sais. Le matin, la journée commençait par des vénationes, donc des parties de chasse. Le midi, elle continuait par des exécutions de condamnés à mort par différents procédés comme les lions ou les ours. Et l'après-midi, elle finissait par des combats de gladiateurs.
Merci Tony et Kinan pour cette émission. Cette fois-ci, nous partons donc pour un voyage à travers le temps en compagnie de Jeanne pour rencontrer Noan, matrone romaine, et le Forum d'Auguste.
Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un voyage dans le temps. En 12 avant Jésus-Christ, sous le règne du premier empereur, Auguste. Nous venons d'arriver à Rome. Noan, matrone des esclaves, va nous présenter dans le lieu dans lequel nous sommes. Où se trouve-t-on, Noan ?
Nous voici au Forum romain, le centre de la Rome impériale. Tout autour de nous, nous pouvons observer de nombreux temples, basiliques qui servent de marché couvert ou encore la curie où se réunissent les assemblées de citoyens. Venez, je vais vous montrer un temple en cours de réalisation. Il a commencé à être construit en 42 avant Jésus-Christ. On peut observer de nombreuses statues en fabrication ou finies. Elles représentent Énée, son fils et de grands personnages romains comme Romulus et Rémus. Le Forum d'Auguste servira à accueillir une partie des activités judiciaires, les tribunaux, les prêteurs urbains et des activités commerciales et politiques.
Merci beaucoup, Noan, pour toutes ces précisions. Au revoir.
Eh bien, dis donc, ce fut un voyage temporel fort enrichissant. Maintenant, nous entrons dans l'univers de deux conteurs policiers pour suivre la tragédie de Néron.
Bonjour. Ce soir, nous allons vous conter le passé d'un empereur. Un empereur arrogant, prétentieux, et qui, grâce à son argent et son statut d'empereur, était pardonné ou ignoré. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'empereur Néron. Mais quelle est son histoire, ses meurtres et ce qui l'y a poussé.
En 64, la Domus Aurea prit naissance. Cette demeure qui signifie la maison dorée se compose de feuilles en or. On pouvait la contempler à des kilomètres, car elle se situe sur trois collines. Le Palatin, l'Esquilin, ainsi que le Caïdus. Elle fait plus de 10 hectares, mais ces sublimes feuilles d'or cachent encore bien des choses.
En effet, on raconte que les restes du lac de la Domus sont tentés par l'esprit de la mère de Néron réclamant vengeance. Après, cela ne reste qu'une légende. Ce dont on est sûr, c'est que Néron, lorsqu'il était en pleine possession de ses pouvoirs, noya sa propre mère par peur que celle-ci lui prenne son pouvoir.
Merci pour ces informations. Son beau-frère est aussi une victime de ce tyran, car on dit que l'incendie en 64 fut déclenché par le bûcher allumé par Néron.
C'était Quentin et Masséo, nos deux enquêteurs journalistes. Nous continuons donc avec une question. Connaissez-vous la fontaine de Trévi? Sans doute par son aspect touristique que nous aborderons, mais pour le moment, c'est son aspect mythologique que nous présentent nos spécialistes en mythologie, Manon et Méline.
Une petite faim, pas de problème. Bienvenue au cauchemar culinaire. Pour débuter la journée, on vous propose un gâteau tout sec avec ses céréales cultivées dans un des plus beaux champs d'Italie.
Suivi par ses sandwichs au jambon et son omelette. Et pour finir tout ça, des pâtes avec une pizza à moitié garnie. Et tout ça pour seulement 7 euros. Alors profitez-en tout de suite.
La fontaine de Trevi, dit Fontana dei Trevi en italien, est la plus grande et la plus célèbre fontaine d'Europe. Réalisée entre 1732 et 1762, soit 30 ans de construction, celle-ci est située dans le rione de Trevi, sur la Piazza dei Trevi, et adossée au Palais Pitti. La fontaine de Trevi a été construite dans le style baroque, dans la Rome antique du XVIIIe. La fontaine a été construite car le pape Clément XII souhaitait un ouvrage monumental pour remplacer la modeste fontaine qui se trouvait à l'extrémité de l'aqueduc, l'Acqua Virgo. La fontaine de Trevi est un monument très touristique. Il est de coutume de jeter une pièce de monnaie par le bras droit et le dos tourné à la fontaine. Ce geste signifie le fait de revenir en Italie.
Au centre, une grande niche encadrée de colonnes avec un plafond à caissons abrite le dieu de l'océan, Neptune. On le reconnaît car il conduit un char en forme de coquillage tiré par deux chevaux marins ailés, eux-mêmes précédés par des tritons. La grande niche centrale est encadrée par deux niches latérales plus petites, occupées par deux sculptures en marbre. À droite, la statue de la salubrité et à gauche, celle de la prospérité, allusion aux effets d'une eau pure. Les quatre grandes colonnes corinthiennes supportent un entablement et un attique orné d'un panneau sur lequel est gravée la grande inscription inaugurale et qui est ornée de quatre petites statues allégoriques.
La fontaine de Trevi ou Fontana di Trevi fait partie des incontournables lorsque l'on visite la ville de Rome. L'architecture du bâtiment, ses imposantes sculptures, les effets lumineux et la sonorité travaillée de l'eau fait de ce monument un véritable joyau. C'est l'un des lieux les plus emblématiques de la capitale italienne, mais également l'un des plus touristiques. Une tradition est devenue célèbre grâce au film La Dolce Vita. Elle veut qu'en jetant une pièce dans la fontaine, on s'assure de revenir un jour à Rome. Une autre légende moins connue raconte que si une jeune femme fait boire de l'eau de la fontaine à son amoureux, il lui restera fidèle pour toute la vie.
Merci Alexia de nous avoir éclairés sur cette tradition prisée des touristes.